traversée atlantique est désormais une réalité.
Bonjour dans le fil de l'histoire aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'OTAN. Pourquoi en 1949 a-t-on créé l'OTAN? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historienne Jenny Raflick. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que pendant la guerre froide, les forces de l'OTAN et du pacte de Varsovie se font face en Europe sans produire d'affrontements armés. La chute du mur va-t-elle mettre fin à l'OTAN?
Jusqu'où iront les événements à l'Est, plus extraordinaire encore que l'ouverture des frontières entre les deux Allemagnes. La RDA a commencé ce soir à détruire le mur de Berlin. Des soldats est-allemands ont commencé à percer de nouveaux points de passage entre l'Est et l'Ouest. Plus que jamais, aujourd'hui encore, le vent de l'histoire continue de souffler sur l'Allemagne.
Le 9 novembre 1989, prenant le monde entier de court, la chute du mur de Berlin sonne le glas de 50 ans de guerre froide et avec la victoire de la liberté des peuples et de la démocratie, soulève l'immense espoir dans l'avènement d'un monde nouveau, plus pacifique, voire meilleur. Le politologue américain Francis Fukuyama, en 1992, parlera même d'une fin de l'histoire, la fin de la guerre froide marquant pour lui la victoire de la démocratie et du libéralisme sur les autres idéologies politiques. Illusion, vœux pieux, en tout cas, la chute du mur de Berlin, qui précède celle de l'URSS 2 ans plus tard, marque un tournant indubitable, existentiel même, on peut le dire, pour l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord en 1949, on s'en souvient, avait été conclu pour faire face à la menace d'une invasion soviétique en Europe occidentale. En toute logique, avec la chute du mur, la réunification des deux Allemagnes l'année suivante, la fin du pacte de Varsovie en juillet 1991, puis la dissolution de l'URSS quelques mois plus tard, l'ennemi principal désigné par la stratégie de 1949 n'existait plus. Et donc, la question du maintien de l'OTAN était posée.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Très vite, les États-Unis pourtant expriment leur volonté de maintenir l'organisation. Le 12 décembre 1989, à Berlin, donc un mois seulement après la chute du mur, le secrétaire d'État américain, James Baker, préconise même l'élargissement fonctionnel et géographique de l'OTAN. Le président français, François Mitterrand, lui, s'oppose à l'adhésion à l'OTAN des anciens pays du pacte de Varsovie. Il reconnaîtra plus tard, je cite, que « c'était difficile de dire non », tout en ajoutant « depuis 1917, la Russie a obéi constamment à un réflexe ou à une peur d'encerclement ». Difficile en effet de dire non au pays qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à notre porte, vivait sous la botte soviétique, payant cher le prix de la victoire de mai 1945 et de notre liberté. En 1999, c'est donc au tour de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque d'entrer dans l'OTAN. Rejoint en 2004 par la Bulgarie, les Pays-Baltes, la Roumanie, la Slovaquie, en 2009 par l'Albanie et la Croatie, en 2017 par le Monténégro, en 2020 par la Macédoine du Nord, en 2023 par la Finlande et en 2024 par la Suède. Actuellement, l'OTAN compte 32 pays. Jenny Raflick, comment expliquer que l'OTAN, donc qui a été créée en 1949 pour faire face à une attaque soviétique sur l'Europe de l'Ouest, ait survécu à la chute de l'URSS?
Alors, c'est un peu finalement le succès à long terme des négociateurs du traité. Ils avaient voulu un traité qui serait assez souple et qui serait capable de s'adapter à la situation. Et finalement, c'est ce qui se passe à la fin de la guerre froide. L'Alliance va s'adapter à la situation nouvelle en redéfinissant assez vite ses missions et surtout par le biais de ce qu'on va appeler les concepts stratégiques. C'est-à-dire que l'objectif reste toujours le même, c'est assurer la défense du territoire des pays membres. Seulement, c'est la façon dont on va commencer à envisager les moyens d'assurer cette défense qui évolue. Dès 1991, on fait entrer dans le vocabulaire stratégique de l'OTAN l'objectif de stabilisation qui s'étend au territoire des partenaires des pays voisins. C'est le dialogue, la coopération. Ça va être la mise en place progressivement du partenariat pour la paix, y compris avec la Russie, d'ailleurs, et les anciens ennemis. Et puis, petit à petit, et ça rentre dans le concept stratégique dès 1999, on passe d'un concept de défense stricto sensu à un concept de sécurité beaucoup plus large, qui va inclure des facteurs politiques, économiques, sociaux, environnementaux. L'OTAN s'occupe du réchauffement climatique, en plus de la dimension de défense. Et donc, finalement, l'OTAN s'adapte à la géopolitique contemporaine au fur et à mesure.
On va assister à un élargissement de l'OTAN. Comment expliquer l'idée, justement, d'un élargissement? Est-ce pour répondre aux vœux des pays de l'ex-pacte de Varsovie qui continuent de redouter éventuellement le grand voisin russe, même s'il n'est plus soviétique?
Comme le dit James Baker, il y a deux élargissements. Il y a l'élargissement fonctionnel et l'élargissement géographique. Et les deux vont pleinement de pair. Il est quand même très progressif, hein, l'élargissement géographique. On voit que c'est les pays avec lesquels il y a d'abord le plus de coopération économique qui entre les premiers dans l'Alliance, la Pologne, la République tchèque, et ensuite, petit à petit, les élargissements suivent. L'élargissement à la Roumanie, par exemple, s'accompagne de la signature de contrats d'armement importants entre les États-Unis et le gouvernement roumain. Donc on a toujours des dimensions qui sont des dimensions multiples.
Lors du sommet de Bucarest en 2008, les alliés conviennent que la Géorgie et l'Ukraine deviendront un jour membres de l'Alliance. Pourquoi ce choix et pour quelles raisons ces pays n'intègrent pas tout de suite l'OTAN ?
Un élargissement ne doit pas mettre en danger la paix et la stabilité de l'Alliance. Autrement dit, un pays qui a des relations conflictuelles avec un de ses voisins ou un pays tiers ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas résolu ces problèmes, notamment de frontières.
Donc là, c'est le problème de la Géorgie et le problème de l'Ukraine face à la Russie.
Exactement. C'est notamment la France et l'Allemagne qui mettent un veto, hein, qui veulent absolument pas de cet élargissement, parce que ça menacerait toute la stabilité de l'Alliance.
Alors, Jenny Raflik, avec l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, la guerre est revenue donc sur le sol européen, avec le retour de la menace russe éventuelle sur des États membres de l'OTAN. La question aujourd'hui est de savoir si les États-Unis, qui regardent de plus en plus vers l'Asie, vont continuer à se poser en principal protecteur de l'Europe au sein de l'OTAN, avec aussi la question du financement de l'OTAN qui est très prégnante dans l'actualité.
Dans le discours américain, il y a deux choses qui sont en train de se distinguer. Il y a l'OTAN en tant qu'organisation, et dans le dernier concept stratégique est entré le défi chinois, par exemple. Le pivot vers l'Asie, il peut aussi passer par l'OTAN indirectement, par ce biais, et il y a la défense de l'Europe. On l'a déjà dit dans un épisode précédent, faut pas mythifier l'article 5, c'est pas un engagement militaire automatique, hein. Les États-Unis ne sont pas contraints d'assurer la défense d'un pays membre de l'OTAN. On est plutôt là dans un contrat moral, mais dans un intérêt stratégique, hein. C'est pas l'intérêt des États-Unis de laisser tomber les pays baltes, c'est leur crédibilité à l'international qui en dépendrait aussi. Par contre, ils peuvent choisir d'investir différemment dans la défense de l'Europe. Ça peut être par des pressions politiques, et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir avec les pressions pour le plan Trump. Ça peut être par des pressions morales, ça peut être aussi par une aide économique, financière, d'autres types d'investissements, pas forcément des hommes sur le terrain.
Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN, Jenny Raflik ? Est-ce que l'Europe doit se dépêcher de se donner les moyens d'assurer seule sa sécurité sans l'OTAN ?
Pas forcément sans l'OTAN, mais le développement d'un pilier européen, d'une européanisation de l'OTAN, c'est un vocabulaire qui circule depuis maintenant quelques décennies et qui finalement n'a pas été pleinement investi sur le terrain. L'Europe peut aussi se ressaisir elle-même des outils mis à disposition par l'OTAN. L'Union européenne peut devenir un acteur clé dans l'Alliance et dans les institutions otaniennes.
Merci beaucoup Jenny Raflik de nous avoir rappelé l'histoire finalement assez méconnue de l'OTAN. De vous, on peut lire « Terrorisme et mondialisation » publié chez Gallimard en 2016 et « La 4e République et l'Alliance Atlantique » aux presses universitaires de Rennes. À lire également d'Amélie Zima « L'OTAN » dans la collection « Que sais-je ». C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin à la technique. Tila Iravu, vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France, où j'attends comme toujours vos commentaires, ainsi que sur Facebook.